de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama. À l'habitude de vous proposer des blind tests, à l'habitude aussi de vous proposer des interviews, il fait soit l'un soit l'autre, et parfois il fait les deux, et c'est le cas pour cette émission. Nous aurons une interview, c'est celle de Cyril Harris, le réalisateur libanais de Un monde fragile et merveilleux, qui est un merveilleux film. Et puis nous jouerons aussi un blind test autour de la filmographie de Martin Campbell, puisque ce réalisateur a sorti un film, mais sur une plateforme, en l'occurrence en France, c'est celle de Canal+. Et toi, tu as un film français, Sophia, et un film français, mais avec des actrices étrangères.
Et oui, avec Angelina Jolie, qui parle français dans le film. Je vais vous parler de Couture, d'Alice Winocourt.
Et puis Guillaume nous parlera aussi de La Famille Adams, qui fait son retour dans les salles dans une version copie restaurée. Mais nous allons débuter avec une plongée dans les coulisses de la haute couture, où rivalité et ambition se jouent à coups d'aiguilles et de secrets.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Avec Couture, Alice Winocourt poursuit son travail sur les corps mis à l'épreuve. Après le traumatisme collectif d'Au revoir Paris en 2022, qui traitait des attentats, elle s'attaque cette fois à un territoire plus feutré, le monde de la mode, au travers de plusieurs prismes féminins. Un monde dans lequel les corps, encore, sont soumis à d'autres types d'attentats. Et pour incarner cette plongée, elle convoque rien de moins que la seule, l'unique Angelina Jolie, dans le rôle d'une réalisatrice américaine, francophone, venue tourner un petit film pour une grande maison de couture parisienne. Autour d'elle gravite un casting très français, Ella Rumpf, Louis Garrel, Vincent Lindon et la jeune première Agnière Anei, dans une mise en abîme un peu étrange, un film sur une femme qui fait un film dans un milieu qui transforme tout en image. Mais ce jeu de miroir est aussi traversé par quelque chose de plus concret, la maladie. Un motif qui résonne fortement avec la réalité d'Angelina Jolie elle-même, hein, qui a rendu publique sa double mastectomie préventive il y a quelques années, et qui fait écho aussi au parcours personnel d'Alice Winocourt, la réalisatrice, marquée par la question du cancer, elle aussi, dans sa vie intime. Autrement dit, derrière l'élégance, Couture est aussi un film hanté par la réalité des corps menacés et traversé par une forme de sororité diffuse entre la réalisatrice et son actrice, mais aussi entre les protagonistes du film, toutes confrontées à leur manière à ce qui s'impose à leur corps.
Do you think we're responsible for what happens to us?
What do you mean exactly?
Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
Tu viens d'arriver?
Oui.
T'inquiète, on va se comprendre.
I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
Maxine, donc, débarque à Paris pour réaliser un court-métrage gothique destiné à une prestigieuse maison de couture. On reconnaît d'ailleurs sans peine les décors de Chanel avec sa cage d'escalier pleine de miroirs. Elle imagine une histoire de vampire avec une mannequin sud-soudanaise comme figure centrale, Ada, qui a fui la guerre et vient d'arriver à Paris à tout juste 18 ans, propulsée sous les projecteurs sans vraiment comprendre les règles du jeu. En parallèle, le film suit Angèle, une maquilleuse qui observe de près ce microcosme de la mode tout en essayant de donner une forme littéraire à sa propre vie. Parfois, le récit fait aussi halte du côté de Christine, dans l'atelier, où ses petites mains s'affairent à coudre les moindres détails de la robe immaculée qui fera l'ouverture du défilé, celle que portera Ada. Christine devient un peu le métronome du film, hein. Elle avance point par point, elle répète les gestes, elle défait, elle recommence. Et lorsque Maxine apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, les marques que trace au feutre rouge le docteur Hansen, hein, sur le torse de Maxine répondent visuellement au ruban rouge planté sur le mannequin de couture dans l'atelier. Deux corps balisés, découpés, préparés, recousus pour être exposés ou soignés.
Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
Oui, je me sens très chanceuse.
Action!
Vous avez mes essais pour moi?
Ouais, bien sûr.
Oh, you're going to be in a movie?
I don't know if this is really what I want to do.
Ne regarde pas, suis ma main.
Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
Et j'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. Et c'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
Je ne comprends pas.
Le film fonctionne comme un jeu de miroir. La réalisatrice filme une femme qui filme dans un monde qui transforme sans cesse les corps en surface esthétique. Alors visuellement, c'est très maîtrisé et stylisé, que ce soit les éclairages, les textures, les silhouettes. Le clip gothique, imaginé par Maxine, évoque clairement l'esthétique des Hammer Films avec cette horreur chic et brumeuse. Mais ce raffinement devient aussi la limite du film. La construction chorale donne l'impression d'un récit un peu fragmenté qui hésite entre introspection, satire de la mode et drame existentielle. Les personnages restent souvent plus des figures que de véritables présences émotionnelles, même si Angelina Jolie touche par sa fragilité avec ses grands yeux liquides. On sent que le sujet du cancer est intime pour Alice Winocourt, mais cette proximité produit une mise en scène très contrôlée. Là où Revoir Paris trouvait une vibration politique et sensible, Couture reste dans une abstraction esthétique, comme si la douleur, filtrée par le glamour et le beauty privilege, perdait une partie de sa puissance, une douleur un peu édulcorée comme discréditée.
C'est un cri de rage, de libération.
Parler de la fragilité des corps dans un monde obsédé par leur mise en image sans toujours réussir à dépasser sa propre fascination pour le beau, eh bien voilà comment le film coud ensemble la mode, la maladie, la création et l'identité. Et même si Maxine s'illustre parfois comme une Julia Ducournau, fascinée par le sang et que certains échos thématiques rappellent The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, Couture manque de l'audace radicale de ses références pour en rester aussi durablement mémorable.
Couture d'Alice Winocourt est en salle depuis le 18 février. Nous parlons maintenant d'un film qui est sur une plateforme, c'est celle de Canal+, mais le film est réalisé par un grand réalisateur, en tout cas qui a fait des grands blockbusters, c'est Martin Campbell. Pour le film Cleaner, l'histoire d'une ex-militaire reconvertie dans le nettoyage de scènes sensibles qui se retrouve piégée au cœur d'une prise d'otage à haut risque. Et c'est Guillaume, qui n'est pas avec nous dans les studios, qui nous en parle.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
On ne veut aucune crise d'hystérie, aucune tentative héroïque, aucun drame.
Le tireur s'appelle Joanna Locke. Elle nettoie les vides de la tour. Ancienne militaire, unité d'élite de reconnaissance.
Que se passe-t-il quand on semble prisonnier de sagas gigantesques ? Alors on a peut-être une des réponses en voyant Cleaner, le dernier film de Martin Campbell avec Daisy Ridley. Alors le premier est un solide artisan néo-zélandais, spécialisé dans le divertissement d'aventure et d'action, derrière les sympathiques Absolom 2022, Vertical Limit, mais surtout ayant revitalisé par deux fois la franchise de James Bond avec les excellents GoldenEye et Casino Royale à 10 ans d'intervalle, puis celle de Zorro avec le génial Le Masque de Zorro et le nettement moins réussi La Légende de Zorro. Or, la seconde est rien de moins que l'une des figures les plus scrutées et haïes de la pop culture en ayant incarné Rey dans ce qu'on appelle la post-logie Star Wars, les sinistres épisodes 7, 8 et 9. Tous deux se retrouvent dans Cleaner pour sûrement un peu d'air frais, mais même s'il est question d'être suspendu en haut d'un bâtiment, on va voir que ce n'est pas vraiment le cas.
Vous voulez quoi ?
Nous voulons sauver le monde.
Je porte un dispositif relié à mon cou. Si mon petit cœur s'arrête de battre, toute la tour explose.
On pensait que le Die Hard-like, ce sous-genre du film d'action né du succès de Piège de cristal de John McTiernan en 88 et qui voyait ses codes repris ad nauseam de Steven Seagal à Jean-Claude Van Damme, était bel et bien mort depuis longtemps. Or, en 2026, on se rend bien compte qu'à force d'avoir tenu des comptes, les plateformes produisent ou achètent des formules plus que de vrais grands divertissements virtuoses, comme l'était Piège de cristal. Voilà probablement comment Cleaner a vu le jour, car il a tout de la manufacture efficace et déjà marketée, prête à être diffusée. Alors jugez plutôt, des militants écologistes s'infiltrent dans le gala organisé au Shard, le plus haut gratte-ciel de Londres. Ils mènent le contrôle du gala, ils prennent le contrôle du gala lors d'une d'une entreprise spécialisée dans l'énergie pour dénoncer la corruption qui y règne et confronter différents hommes et femmes d'affaires puissants qui ont tous les mains sales. Mais certains membres, les plus radicaux du groupe, décident de prendre les invités en otage et éliminent ceux qui ne voulaient pas de violence. Alors que les morts s'accumulent et que leur nouveau leader montre clairement des intentions radicales, meurtrières et suicidaires, Joey Locke, ancienne militaire reconvertie en laveuse de vitres qui se retrouve présente sur les lieux par la force des choses et qui va tenter de s'interposer, elle va initier un dangereux jeu du chat et de la souris alors que son frère est l'un des prisonniers. Tous les ingrédients du Die Hard Like sont donc bien cochés, de l'anti-héroïne au grand cœur et aux capacités de défense certaines, à la top infiltrée, en passant par les criminels qui cachent en fait un plan derrière leurs revendications. Alors il y a même le contact extérieur de l'héroïne, une policière perspicace qui essaie de l'aider comme elle peut et lui remonte le moral lorsqu'il est en berne. Le film ne s'en cache d'ailleurs jamais, misant, à défaut d'originalité, sur une efficacité certaine, puisque le spectacle se boucle en à peine 90 minutes, générique de fin compris. Alors, si le résultat sonne forcément anachronique en 2026, que dire du portrait des éco-terroristes qui feront frémir n'importe quel militant dans les starting blocks des municipales? Heureusement, le film essaie de se rattraper avec le tour de passe-passe qui voit le pauvre Clive Owen disparaître au bout d'un tiers de métrage et sa conclusion qui tape quand même sur les doigts des vilains industriels sans toutefois être triomphante, ce qui est un peu réaliste quand on voit comment la justice occupe des puissants. Daisy Ridley n'a pas grand-chose à défendre et du coup ne fait pas grand-chose, mais il est quand même plaisant de voir que Martin Campbell, désormais âgé de 82 ans, s'est toujours signé un divertissement carré et bien découpé, ce qui est un vrai art en soi qui s'est grandement perdu. Alors il cède certes à la mode des belligérants, apparemment tous ceinture noire de MMA, et rien n'est vraiment mémorable, mais bon. On se dit que dans ce gros pompage de pièges de cristal, le plus drôle est qu'ils ont pensé à y inclure des éléments de la tour Montparnasse infernale, car oui, Daisy Ridley fait quasiment la même chose qu'Eric et Ramsey dans le pastiche franchouillard, mais en tout sérieux. Comme quoi, Cleaner est vraiment un film anachronique.
Alors, ce film Cleaner, donc, qui est sur la plateforme Canal+, nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie de Martin Campbell, le réalisateur néo-zélandais, qui a fait quand même un certain nombre de films, et bon, des films qui sont plutôt des blockbusters. Alors, ce sera pas forcément facile pour toi, Sophia, mais peut-être plus facile pour vous, chers auditeurs. Voici le premier extrait.
Je suis le porte-monnaie.
On en a pour son argent.
Le trésor vous soutiendra durant la partie.
Vesper. J'espère que vous l'avez fait payer à vos parents.
Merci. Votre boss est le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une somme pareille sortir aussi vite.
Ni avec autant de classe. Je peux savoir où est l'argent?
10 millions crédités sur votre compte au Monténégro, avec une provision pour 5 de plus si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, votre gouvernement sera amené à financer le terrorisme.
Alors, c'était Eva Green qui donnait la réplique à Daniel Craig. Ah. Donc, c'est un
007.
Oui. De 2006, c'est Casino Royale. James Bond revient aux origines plus brutes et plus physiques, une mission à haut risque autour d'une partie de poker décisive. Voici le deuxième extrait consacré à ce blind test autour de la filmographie de Martin Campbell.
J'arrive pas à croire que t'as fait ça. Même pas un avertissement. 16 morts. Tu t'as trahi ma confiance, t'as provoqué un bain de sang uniquement pour relancer ta guerre.
C'est pas ma faute si ton plan avait pas de couilles. Tu crois qu'on pose des bombes sans faire de mort? T'as dit de frapper fort, c'est exactement ce qu'on a fait.
Pas en tuant des femmes et des enfants. C'est plus fort que toi, tu peux pas t'en empêcher. T'as jamais pu, mais c'est fini. Tu vas me donner leurs noms, leurs adresses, je veux tout.
Je ferai jamais ça, tu sais.
Et encore, là, je suis gentil. Écris maintenant. Et t'as pas intérêt à mettre des conneries, sinon je te jure que je t'éclate la cervelle à coups de crosse.
Oui, il a vraiment la haine et la scène dure assez longtemps. C'est la voix française de Pierce Brosnan, cette fois-ci, qui a été, c'est amusant, un 007. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un 007, c'est The Foreigner, film de 2017 avec Jackie Chan. Un père endeuillé traque les responsables d'un attentat. Sa quête de vérité l'oppose à un homme politique au lourd secret. Troisième extrait consacré à ce blind test autour de la filmographie de Martin Campbell.
Vous n'avez pas de fusil de chasse à votre nom. Vous en possédez un?
Vous croyez
agir votre arme. Votre licence dans le Vermont est illégale dans le Massachusetts. Si je dis à la police comment vous m'avez ouvert la porte, vous passerez au moins un an en taule. Et vous avez de la chance que je raconte pas que vous m'avez menacé avec un couteau à l'entrée.
Là, vous mentiriez.
Et alors?
Ce serait pas vous. Vous êtes son père. Vous êtes jamais venu la voir. Vous avez même pas essayé.
Ouais, c'est vrai. Vous bossiez ensemble. Et j'ai besoin de savoir dans quel genre de merdier elle était.
J'ai pas le droit de vous le dire. Par mesure de sécurité, personne ne doit savoir sur quoi nous étions.
Je peux comprendre que vous m'aidiez pas. Mais ça m'étonne que vous n'aidiez pas Emma.
Écoutez, elle est morte.
Alors, effectivement, elle est morte. C'est la fille de Mel Gibson, dont on entend la voix française. Après la mort mystérieuse de sa fille, un policier découvre un scandale industriel et plus il avance, plus le complot se resserre. C'est le scénario de Hors de contrôle, film de 2010. Allez, un nouvel extrait.
C'est un régal, riche, séduisant et de la noblesse.
Qu'est-ce que je pourrais bien dire qui te ferait partir?
Tu peux toujours tomber à genoux et me supplier de te reprendre.
Je ne voudrais pas abîmer ma robe.
C'est tant mieux parce que j'apprécie ma vie de célibataire.
Tu espères me rendre jalouse?
Et ça marche?
N'y compte pas.
Bon, alors dis-moi, qui s'occupe de Joaquin quand sa mère passe ses nuits dehors?
Mais je ne passe pas mes nuits dehors, je ne l'ai même pas dit à Joaquin. Et maintenant, sors!
Tu sais...
Non, lâche-moi.
Je comprends enfin pourquoi tu m'as quitté, Elena. Ce n'était pas digne de toi d'épouser un paysan comme moi, voilà la vérité.
Voilà la preuve que tu es
ivre. Comme ton beau-père pourrait être fier de toi, de te voir à la place qui te convient, au bras d'un
aristocrate. Laisse-le tomber, s'il te plaît.
Toutes mes félicitations, votre Altesse.
Ah, il ne l'a pas volé, celle-ci. Donc... C'est pas trouvé, Sophia. Film de 2005. Un film avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones. Oui, c'est Zorro. Ouais. Alors, c'est la légende de Zorro, parce qu'il a réalisé deux Zorro, Martin Campbell. Zorro reprend le masque pour déjouer un complot menaçant la Californie, rien que ça, entre action spectaculaire et tension familiale, hein, évidemment, pour ce film. Allez, dernier extrait consacré donc à ce blind test autour de la filmographie de Martin Campbell.
Une intense lumière a quitté l'univers. Abin Sur est mort. Quatre de mes frères d'armes ont été tués. Les habitants de deux mondes exterminés par un ennemi inconnu. Un ennemi qui possède la force jaune de la peur. Nous savons qu'il émane des confins du secteur perdu et que son pouvoir augmente à chaque combat. Dans sa dernière communication, Abin Sur semblait savoir de quoi il s'agissait. Il a eu pour seul mot, c'est parallaxe.
Il est évident que ceux qui ont vu le film, eh bien, ont tout de suite trouvé de quoi il s'agissait. Alors ceux qui l'ont pas vu, comme toi, Sophia, ont quelques problèmes, évidemment. C'est Green Lantern. Film de DC Comics, hein, avec Ryan Reynolds, un pilote reçoit un anneau au pouvoir immense, il devient le protecteur de la Terre face à une menace cosmique, et il devient donc bien un justicier. Voilà. Film de 2011, ainsi s'achève ce blind test consacré donc à la filmographie de Martin Campbell, qui est le réalisateur de Cleaner, actuellement sur la plateforme Canal+. Une grande histoire d'amour née à Beyrouth entre passion retrouvée et désir d'ailleurs dans un pays qui retient ceux qui voudraient le quitter. Nous parlons maintenant d'un monde fragile et merveilleux.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Faire une comédie romantique se déroulant au Liban, c'est forcément livrer les sentiments à un contexte politique sombre, hein, dans un pays qui a multiplié les guerres civiles. Cyril Harris, qui vient du documentaire, largement apprécié, hein, dans l'univers des festivals, nous livre un film d'une grande délicatesse et d'une parfaite maîtrise, réunissant un couple qui finit par se demander s'il doit, oui ou non, quitter le Liban et s'il est bien sérieux et responsable de faire un enfant, même entouré d'amour. Disons plutôt que elle veut partir à Dubaï et lui garde toujours le désir intense de vivre dans le pays qu'il a vu naître en résistant. La naissance dans la douleur, c'est ainsi d'ailleurs que débute un monde fragile et merveilleux dans une formidable séquence qui mêle le bruit des bombes au cri des nouveau-nés. Le thème est posé. Comment un contexte politique peut ainsi jouer sur la vie de chacun et aussi sur l'amour? Les deux naissances que l'on voit, ce sont celles de Nino et Yasmina qui découvrent le monde à quelques minutes d'intervalle, qui s'aiment dans leur cours d'école et qui sont séparées pendant 20 ans avant de se retrouver par un hasard et de se reconnaître. Alors on saisit le terreau de la comédie romantique, hein, il y a l'amour, la rupture et la revoyure. Le titre qui prend la forme d'une antithèse en opposant la vulnérabilité, fragile, à la splendeur, merveilleux, illustre également la relation amoureuse que vivent Nino et Yasmina. Car ils s'aiment, ils discutent également, hein, sur comment conduire tenir cet amour. Elle est mature, distante, douce. Lui est volontiers drôle, fantaisiste, ce qui donne une légèreté au film, c'est-à-dire un film qui est rarement grave, toujours lumineux, bien écrit, bien monté, conçu avec une bande-son omniprésente mais subtile, un monde fragile et merveilleux, une histoire d'amour dans un pays tiraillé est à voir et nous laissons eh bien, son réalisateur, le Libanais Cyril Harris, nous en parler.
Dans le cinéma libanais, il y a toujours cette attente d'un cinéma plutôt misérabiliste, d'un cinéma de guerre, un cinéma de crise. Évidemment que ça fait partie de notre quotidien, ça c'est très vrai, mais ce n'est pas toujours le cas parce que finalement, nous sommes tous très attachés au Liban. Les Libanais qui sont au Liban et les Libanais qui sont en dehors du Liban restent toujours très affectés par la situation et très attachés. C'est assez compliqué pour nous d'expliquer cet attachement qu'on a pour notre terre, pour notre patrie, pour notre pays. Et donc c'est là que j'ai voulu faire ça à travers deux personnages assez contradictoires et d'expliquer leur amour et leur attachement envers leur pays et en même temps leur désespoir et leur désillusion vis-à-vis de leur pays. Mais ça, je pense que c'est vraiment la base de notre relation avec le Liban. En fait, le restaurant, si on prend genre des screenshots du restaurant au premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, et on les met l'un après l'autre, on devrait voir vraiment l'évolution du Liban. À l'âge adulte, tout est très coloré, tout est très saturé. On sent qu'il y a une ère de prospérité. Il y a beaucoup de nourriture, tout est coloré, tout ça. Alors que vers la fin, tout est bien plus monochrome. Il y a une absence de couleur et on sent vraiment qu'on sent une sorte de pourriture dans la texture du restaurant. Donc oui, effectivement, traiter le restaurant comme un personnage et comme une réflexion du contexte social et politique ou bien du bien-être de la ville était un choix très conscient. Maintenant, vouloir parler de ces trois époques, donc d'un côté, c'est essayer de parler de ma propre relation dans ces trois stades différents de ma vie vis-à-vis de Beyrouth, mais aussi c'était pour pouvoir parler de ce trauma pour les personnages qui est né à la naissance et qui se transmet et qui revient à l'âge adulte, et ce trauma dont il n'arrive pas à s'en débarrasser. Ce n'est vraiment qu'à la fin, une fois qu'il surmonte ce trauma, qu'il puisse vraiment se retrouver et coexister avec toutes leurs différences. Et qu'il, dans le cas de Nino par exemple, qu'il accepte vraiment la mort de ses parents une fois pour toutes et qu'il vive le deuil de ses parents pour qu'il puisse surmonter et vraiment passer à autre chose. Vouloir faire une histoire plutôt fantastique et de parler un peu de cette destinée ou de cette prédestination de ces deux personnages à toujours se retrouver, à toujours s'entrechoquer et à se retrouver l'un avec l'autre. Qui est justement toute la théorie de Nino, c'est que quoi qu'on fasse, finalement, on va être ensemble. Et on peut se séparer pendant 20 ans et finalement, c'est cet aspect poétique de notre relation et cet aspect fantastique qui va nous ramener l'un pour l'autre, parce que nous sommes faits l'un pour l'autre, nous sommes nés à la même minute, enfin à une minute d'écart. Donc voilà, il a un peu il attribue cet aspect fantastique et poétique à leur relation. Elle évidemment, elle déteste ça, et elle lui dit dans le film que cette manière de penser, c'est une maladie, donc s'il te plaît, va voir un médecin avant que ma fille ne chope cette maladie. Je fais passer genre un son de train à travers les vagues ici, à travers les interférences de la radio, on fait passer un son de train. Quand il se voit, il y a des sons de train. Donc tout au long du film, en fait, il y a des sons de train. Et bon, on a beaucoup travaillé sur ça. Et je vous rappelle, moi, je me suis tourné, j'ai dit finalement, on fait ça juste pour toi et moi. Personne ne va jamais rien remarquer. En fait, tout ça vient d'une citation que j'aime beaucoup de Michael Haneke, qui dit justement, si je veux toucher quelqu'un, j'utilise le son et jamais l'image.
C'était Cyril Harris, le réalisateur libanais d'Un monde fragile et merveilleux. Je vous recommande fortement d'aller voir ce film qui est vraiment d'une très bonne douceur et de toute façon un film qui est très maîtrisé. Et ça fait plutôt plaisir à voir. Le film culte de la famille la plus excentrique du cinéma ressort en version restaurée pour célébrer son 35e anniversaire et replonger dans l'humour noir et décalé des Addams. Nous parlons de la famille Addams.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Te rends-tu compte la chose ? Depuis 25 ans, je m'efforce de contacter Fétide dans les ténèbres de l'au-delà. Et depuis 25 ans, rien. Je commence à penser que mon frère ne sera plus jamais des nôtres.
Alors que les aventures de Mercredi connaissent un regain de popularité suite à la série du même nom produite par Netflix et chaperonnée par Tim Burton, qui a été un énorme carton de visionnage et viral, mais qu'en est-il de la première adaptation sur grand écran de la création de Charles Addams, hein, parue à l'origine sous forme de dessin humoristique dans The New Yorker et datant de la fin des années 30 ? Eh bien, loin de s'être noyé dans une époque faisant la part belle aux adaptations de séries télé, hein, rappelez-vous qu'il y a eu peu avant hein, Les Incorruptibles façon Brian De Palma, mais la famille Addams version Barry Sonnenfeld est devenue instantanément culte. Et ce n'est pas cette ressortie 34 ans après sa date initiale, ça ne nous rajeunit pas, qui va faire dire le contraire.
Fétide Addams, enfin parmi les siens.
Disons au moins pour la semaine.
La semaine ?
Ne sois pas ridicule, tu es chez toi, cher frère.
Désolé, mais il faudra que je reparte, j'ai plusieurs affaires sur le feu. Dans le triangle des Bermudes.
Oh, Gomez, le triangle des Bermudes.
L'île de Satan.
Le trou noir de Calcutta.
Excusez-nous.
Seconde lune de miel. Docteur Pinderschlass, resterez-vous également avec nous ?
Non, je dois reprendre route, mais un peu que je vais revenir pour m'assurer Fétide s'acclimate bien.
Cool! Le triangle des Bermudes, personne n'en sort, pas même pour des vacances. N'importe quel idiot le sait.
Oh, ma jolie petite puce, tellement de choses que tu sais rien. Un esprit humain est éternel, très difficile à tuer.
Même avec une tronçonneuse.
Alors, pourquoi c'est réussi? Bah, tout simplement parce que derrière le scénario, il y avait Larry Wilson, hein, déjà derrière le génial Beetlejuice hein, de Tim Burton, et Caroline Thompson derrière celui du non moins génial Edouard aux mains d'argent du même Burton. Ces deux grands noms hein, du gothique horrifique familial de la fin des années 80 et début des années 90, hein, genre qui faisait alors un malheur sur grand comme sur petit écran, rappelez-vous les contes de la crypte, hein, ben sont arrivés à cristalliser la particularité morbide et décalée de la famille la plus étrange du monde. Alors là où l'humour est dévastateur, hein, c'est dans ce détournement de l'American Way of Life, hein, déjà présent dans leur scénario antérieur, ben au profit des monstres gentils qui vont en montrer toute l'absurdité et leurs limites. La famille Addams, c'est un miroir de notre monde, hein, satirique et mordant, servi par un casting exceptionnel composé d'Angelica Houston, Christopher Lloyd, Christina Ricci ou encore le très regretté Raoul Julia, hein, qui montrait ici toute l'étendue de son talent comique, derrière les moustaches magistrales d'un splendide séducteur. Chef opérateur de génie, hein, ayant suivi les filmographies des frères Coen et de Rob Reiner, hein, Barry Sonnenfeld signait ici sa première réalisation. Alors elle semble sage en apparence, hein, mais elle est d'une redoutable efficacité en ce qui concerne les gags, visuels ou non, hein, et qui reprendra cette formule décalée pour une suite encore plus réussie, et l'énorme carton de Man in Black, bien sûr, en 1997. Alors si ma préférence va au second film, hein, l'hilarant les valeurs de la famille Addams, hein, le premier est un petit bijou de comédie macabre avec des gars qui auraient pas mal de soucis à être validés aujourd'hui, comme celui de la fête de l'école qui se transforme en bain de sang dans la joie et la bonne humeur. Alors ce diptyque continue de faire de l'ombre à toutes les adaptations ultérieures, car il est franchement difficile de faire mieux, et vous pourrez vous le prouver dans une salle obscure, hein, obscure à l'image de l'humour noir des Addams.
La La famille Adams de Barry Sonnenfeld ressort en salle en copie restaurée dans certains cinémas du territoire.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras deux films, Sophia.
Oui, je vous parlerai de Marty Supreme et de 5 cm par seconde.
Moi, je vous parlerai de Rue Malaga et puis de Woman and Child qui était en compétition à Cannes. À la semaine prochaine.